Bienvenue dans les chemins de l'ergothérapie, issu du collectif Occupe ton ergo. C'est une émission qui vise à rendre la littérature en ergothérapie et en sciences de l'occupation plus accessible. Pour cela, je prends un article relié à l'ergothérapie et ou aux sciences de l'occupation, je vous en parle et je vous dis aussi ce que j'en ai pensé. Les liens avec la pratique de l'ergothérapie, l'évolution de la profession et des professionnels que j'y vois. Je suis Clémence et aujourd'hui je vais vous parler de l'article d'Elizabeth Townsend, Reflection on Power and Justice in Enabling Occupation, réflexion sur le pouvoir et la justice dans l'habilitation à l'occupation, publié en 2003 dans le Canadian Journal of Occupational Therapy. J'ai choisi cet article en lien avec l'article précédent sur l'ergothérapeute en tant qu'agent de changement, qui concluait sur le besoin d'encourager l'habilitation de l'ergothérapeute à ce rôle. Et pour parler notamment de ce concept, de cette idée, habilité à l'occupation, qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que ça signifie pour nous en tant que professionnels? Donc, voici le premier épisode d'une série spécifiquement concentrée sur l'habilitation. L'habilitation à l'occupation. Ce que je peux vous dire d'Elizabeth Townsend, c'est qu'elle est canadienne, ergothérapeute, chercheuse en sciences de l'occupation. À l'origine du modèle canadien du rendement et de l'engagement à l'occupation, ainsi que de la mesure associée. Elle a coécrit le livre « Habilité à l'occupation, faire avancer la perspective ergothérapique de la santé, du bien-être et de la justice par l'occupation », deuxième édition. Pour ce qui est du Canadian Journal of Occupational Therapy, qui correspond à la revue canadienne en ergothérapie, elle vise à publier des articles faisant progresser les théories, la pratique, la recherche et la politique. Elle est revue par les pairs et notamment à destination des ergothérapeutes. Cet article est une réflexion critique sur le pouvoir et la justice associés au développement de la pratique centrée sur la personne en ergothérapie. Pratique traduite désormais par la notion d'habilitation. L'autrice souhaite dans cet article faire le lien entre les analyses sociologiques de la profession d'ergothérapeute et notamment interroger les manques retrouvés dans les années 1980 via d'une part un cadre pour penser le pouvoir et la justice, d'autre part un résumé du modèle conceptuel développé par les ergothérapeutes canadiens pour promouvoir la pratique centrée sur la personne et l'habilitation, mais aussi souligner les perspectives des personnes accompagnées et des ergothérapeutes dans l'habilitation à l'occupation dans les années 2000. Pour ensuite construire une réflexion sur le pouvoir et la justice. L'autrice nous prévient que l'article est rédigé à la première personne du singulier, car elle a été impliquée de façon importante dans les développements professionnels qui vont être traités dans cet article. Donc, le cadre dans lequel on se situe s'appuie sur les sciences sociales et l'ethnographie, en regardant spécifiquement comment et pourquoi les femmes sont invisibilisées et manquent de pouvoir, dans le cadre de la recherche, mais aussi dans le cadre d'autres discriminations liées au genre, l'âge ou l'origine. Cette ethnographie institutionnelle permet de produire des connaissances sur comment le pouvoir est déterminé par des textes régnants et modèle la façon dont les personnes pensent et agissent. Ces textes régnants sont des recommandations, des lois, des images médiatiques et même des orientations budgétaires. Ainsi, les institutions sont des structures organisées autour de textes, règles qui leur sont propres. Ces règles sont souvent inconscientes, induisant une subordination invisible entre les personnes sans avoir à faire preuve de force. L'ethnographie institutionnelle n'est ni une recherche qualitative ni une recherche quantitative. C'est une recherche analytique qui produit des connaissances sur les éléments qui lient les personnes et les institutions. Reliant au niveau micro les situations de pouvoir ou non, les situations de justice et d'injustice, et les discours, structures existants au niveau macro. Et permet d'en faire ressortir une compréhension du monde. En quelque sorte, ça permet de rendre visibles les liens tacites, non-dits et invisibles qui structurent la société et la vie quotidienne des personnes. Maintenant, si on applique cette ethnographie institutionnelle à l'ergothérapie, on fait notamment ressortir le fait que la profession s'inscrit dans un corporatisme médical et que la pratique centrée sur la personne est surestimée, comme celle centrée sur l'occupation. Car souvent dépendante des politiques plus ou moins locales, des priorités institutionnelles développées et axées sur un modèle biomédical. Comprendre cela permet aussi de comprendre comment agir dessus et renforcer la justice et la force de l'habilitation à l'occupation. Les recommandations en ergothérapie permettent de développer une pratique ainsi que de conceptualiser une pratique. Cette conceptualisation passe par la définition des termes, des concepts centraux. L'idée n'est pas de dire aux professionnels comment faire, mais d'offrir un cadre avec les valeurs, le vocabulaire, les concepts propres à la profession, et que dans ce cadre, les professionnels puissent construire d'autres perspectives. Le cadre pour les ergothérapeutes canadiens et canadiennes définit aussi la relation avec les personnes accompagnées, comme devant être centrée sur celle-ci, sur l'occupation et la performance occupationnelle. Au travers de ce cadre et de ces recommandations, les ergothérapeutes gagnent en capacité d'agir pour développer leur propre pratique. Pour rendre tout cela possible, l'Association canadienne des ergothérapeutes et le gouvernement canadien a conduit une réflexion pour construire des recommandations et un cadre de pratique. Ce cadre s'appuie aussi sur l'histoire du pays, l'histoire du Canada, de concertation et de collaboration avec les autres professionnels de santé, pour savoir comment chacun, personnes accompagnées et professionnels, travaillent ensemble. Plusieurs recommandations ont vu le jour, suite à plusieurs discussions au fil du temps, mettant en évidence des réflexions et des évolutions de la société. Toutes ces discussions et ce travail ont permis de faire émerger 10 concepts clés dans et pour la pratique de l'ergothérapie, tels que les valeurs individuelles, une vision holistique, une performance occupationnelle, l'utilisation de l'activité comme moyen thérapeutique, le développement de perspectives, la spiritualité, la motivation, la relation thérapeutique, le processus d'apprentissage et l'éthique. Ces concepts ont été approfondis, remis en question, confrontés à la réalité de terrain. C'est dans les recommandations en santé mentale qu'apparaît la notion d'habilitation et d'empowerment, dans une volonté de promouvoir la santé et de renforcer la participation. L'habilitation à l'occupation est alors définie comme un processus, facilitant, guidant, entraînant, éduquant, promouvant, collaborant avec les personnes, en individuel ou en groupe, pour permettre aux personnes d'atteindre leurs propres objectifs. En général, les précédentes recommandations associaient le respect de la personne, la vision holistique, l'utilisation de l'activité, la motivation, en faisant le lien avec le concept d'occupation humaine, et notamment le modèle de l'occupation humaine qui présentait l'occupation comme une fin et un moyen de l'ergothérapeute. Dans le modèle canadien du rendement occupationnel, MCRO, ou Canadian Model of Occupational Performance, CMOP, l'occupation est pour la personne l'outil pour penser, sentir et agir dans leur environnement. Le terme d'habilitation est alors utilisé pour regrouper à la fois la performance, le développement, l'apprentissage et la promotion de la santé. L'habilitation est un concept de la participation. Il est en lien avec la collaboration, autant individuelle qu'en groupe, et vise à promouvoir une transformation de la société. En lien avec cette volonté de transformer, s'est ajoutée la notion de justice, la justice occupationnelle. Produit des recommandations pour une pratique centrée sur la personne, qui fait la promotion de la santé et de l'empowerment. Pour appliquer ces recommandations et habiliter à l'occupation, il faut se concentrer sur l'occupation comme domaine d'expertise. Cela va permettre de voir émerger des changements dans l'engagement et la participation, et encourager et promouvoir la justice occupationnelle. L'autrice a ensuite réalisé une étude sur les perspectives de l'habilitation à l'occupation pour les personnes accompagnées et les ergothérapeutes. La collecte des données a eu lieu d'octobre à novembre 2001. L'échantillon n'était pas représentatif, mais avait comme objectif d'enrichir la nouvelle préface du livre « Habilité à l'occupation ». Les questions qui ont guidé l'analyse sont des questions telles que « Quels propos et intérêts sont mis en évidence ?» et « Lesquels manquent ?» concernant la pratique centrée sur la personne, concernant l'habilitation à l'occupation en ergothérapie. Quelles sont les limites et les facilitateurs pour habiliter à l'occupation? Tout d'abord, l'article traite des perspectives et enjeux pour les personnes accompagnées. La pratique centrée sur la personne équilibre la relation thérapeutique et le pouvoir qui existe lors des interventions. 5 personnes ont été consultées pour aborder les occupations signifiantes et l'habilitation. Les différents participants et participantes ont pu dire notamment le besoin des personnes accompagnées d'avoir plus la possibilité d'exprimer leur point de vue sur leurs forces ainsi que le besoin de changer de politique et de système public éducatif. Améliorer le partenariat et la collaboration entre les différentes personnes présentes. Une des personnes a souligné le pouvoir de l'occupation, notamment du travail comme occupation, pour promouvoir la santé et le bien-être. Avec cela vient aussi la modification, l'aménagement, qui sont nécessaires pour s'engager. L'importance des activités signifiantes, qu'elles soient rémunérées ou non, renforce l'empowerment des personnes. Il faut également faire attention aux mauvaises informations et préjugés qui se répercutent sur le sentiment de compétence. Il faut alors trouver les mots, les images qui peuvent transformer ces idées et l'engagement des personnes. Ensuite, les perspectives des ergothérapeutes dans l'habilitation à l'occupation ont été récoltées via l'Association canadienne des ergothérapeutes. 58 ergothérapeutes ont été questionnés. Parmi les personnes ayant répondu, elles ont pu dire que le modèle MCRO permettait d'expliquer les concepts et d'être holistique, et qu'il permettait d'ouvrir à la discussion et au débat, notamment dans la catégorisation des occupations, telles que soins personnels, loisirs, productivité. Et surtout, cet outil permet d'être centré sur l'occupation. Le modèle permet également de bien mettre en évidence la personne dans son environnement. La littérature soutient qu'il est important de donner plus de visibilité à l'environnement social et institutionnel. L'ajout de la spiritualité dans ce modèle a été controversé, notamment en raison de la difficulté à produire des données probantes sur le sujet et de la difficulté à faire résonner cela avec la pratique de l'ergothérapeute. Cependant, il a été décidé par les ergothérapeutes canadiens de prendre en compte la spiritualité et ses implications pour la personne. Tous ces éléments permettent de mettre en évidence une pratique centrée sur la personne, mais surtout une approche de l'habilitation, qui est centrale parmi les concepts ergo. Les répondantes ont pu dire qu'il est important de produire des recommandations et des remises à niveau permettant de promouvoir ces approches et d'en modifier la pratique. Il est vraiment important de se concentrer sur les perspectives de la personne accompagnée. Un autre élément important est ressorti, c'est celui de la justice. L'autrice fait l'analyse que la justice est présente dans toutes les occupations du quotidien et est une issue implicite et une valeur intégrée à la pratique de l'ergothérapie. Les injustices qui nous interpellent correspondent à la déprivation, à la dépendance non souhaitée, et bien que ces questions et cette attention soient portées depuis les premières recommandations, il est encore difficile aujourd'hui d'être vraiment centré sur la personne. Et cela est souvent en lien avec les structures où les ergothérapeutes pratiquent et leur financement. Pour contrer cela, il semble alors important de rendre notre profession plus puissante. En discussion, l'autrice nous dit que notre pouvoir en tant qu'ergothérapeute est d'habiliter les personnes que l'on accompagne. Et pour cela, il est nécessaire que nous critiquions nos concepts, notre vocabulaire et nos pratiques. Si l'on s'attache à la sociologie des professions, l'ergothérapeute est tiraillé entre être centré sur la personne et sur l'occupation, et le fait d'accompagner les personnes à vivre pleinement. Cette dissonance met en évidence les notions de pouvoir et de justice qui existent dans notre société et qui se répercutent autant dans notre pratique que dans la vie des personnes que l'on accompagne. Les injustices et le manque de pouvoir des personnes est présent dans tous les aspects de la vie et il est difficile d'offrir dans ce contexte des opportunités occupationnelles quand l'ergothérapeute a peu d'incidence à ce niveau, car manque de pouvoir et de poids au niveau de la société. L'ethnographie institutionnelle, abordée au début de l'article, est un outil intéressant pour analyser les difficultés rencontrées par les personnes et par les ergothérapeutes. Ainsi, les relations de pouvoir construites précédemment et les recommandations donnaient une place importante aux institutions dans lesquelles évoluaient plus ou moins les ergothérapeutes sans y avoir beaucoup de place, et où la personne accompagnée avait aussi des interactions limitées avec l'institution et occasionnelles avec l'ergothérapeute. Cela conduit à placer l'occupation pour l'empowerment personnel en dehors de l'institution. Dans ce contexte, il est difficile d'habiliter les personnes. Les interactions et les relations de pouvoir sont trop faibles. Townsend fait également la critique ici que ce fonctionnement pousse plus les ergothérapeutes à rechercher la reconnaissance du public plutôt qu'alerter sur les injustices vécues par les personnes que l'on accompagne. Une autre proposition de relation est présente dans cet article. Elle part du principe que les institutions sont managées, réglementées, dirigées par des personnes qui exercent un pouvoir. Et donc, cela peut être renégocié pour développer quelque chose de nouveau. Ainsi, le travail de l'ergothérapeute doit s'organiser vers un partenariat plus ténu avec l'institution, et l'habilitation à l'occupation fait alors partie de l'institution. Une personne accompagnée devient également beaucoup plus importante et centrale, et est en interaction avec tous et toutes pour pouvoir renégocier grâce à une amélioration du pouvoir et de la justice. Ainsi, l'occupation pour l'empowerment personnel devient un sujet plus important et institutionnel, donc qui doit bénéficier à la société. Dans le contexte canadien, les personnes accompagnées disent qu'avoir une action systématique crée de l'injustice et que la justice n'est pas possible. Et que la justice n'est possible que quand les professionnels, les services, l'économie et les institutions sont habilitantes plutôt qu'handicapantes. Les nouvelles prochaines recommandations doivent tenir compte des recherches en ergothérapie dans l'éducation et la pratique. Rechercher et connaître les situations rencontrées par les professionnels en analysant l'âge, le genre, la culture, les situations de handicap, la recherche doit aussi permettre de clarifier les concepts et les pratiques en fonction des milieux culturels, économiques et sociaux. Mieux comprendre et clarifier les concepts, le vocabulaire et les traduire pour qu'ils puissent agir, influer sur les politiques, les financements et les institutions. Dans la pratique et l'enseignement, il faut que les recommandations soient connues et critiquées, qu'il y ait une réflexion sur les acquis inconscients et réaliser cette réflexion critique avec les personnes accompagnées. En conclusion, l'article utilise l'ethnographie institutionnelle pour penser la façon dont le pouvoir et la justice permettent une habilitation à l'occupation. L'autrice prend alors deux dimensions, la relation de pouvoir entre les personnes accompagnées et l'ergothérapeute, et l'ergothérapeute dans le propre empowerment de son travail. Le 21e siècle est exaltant et difficile pour les ergothérapeutes. Les notions de pouvoir et de justice sont parfois jugées trop politiques, mais les exclure serait aussi politique. Et nous ne pouvons pas rester silencieux devant les injustices vécues par les personnes que l'on accompagne et notre manque d'empowerment en tant que profession. Pour celles et ceux qui veulent continuer à habiliter l'occupation, Thompson nous dit que le défi est de redéfinir les intérêts de la profession, les données probantes, l'enseignement et la recherche. Développer un plaidoyer professionnel pour impulser des changements institutionnels, pour réellement pouvoir habiliter à l'occupation. L'article est terminé. Maintenant, je vais vous partager ce que j'en ai pensé. Commençons par quelques points de vigilance. C'est un article publié en 2003. Il a actuellement 20 ans. Même si certains éléments font toujours sens, aujourd'hui, il est important de garder le contexte historique, et notamment le groupe pop de réflexion et de remise en question qui ont eu lieu au début des années 2000 sur l'ergothérapie, ses fondements et ses buts. Un autre point de vigilance, c'est la méthodologie. Enfin, si on peut vraiment appeler ça une méthodologie. L'autrice nous en parle, donc je vous en parle. Mais concrètement, c'est plus des entretiens exploratoires pour comprendre et appréhender le sujet qu'une méthodologie rigoureuse. Et l'article utilise plus cet élément comme une illustration que comme un fondement de sa réflexion. Passons pour les points de vigilance. Cet article donne à voir la façon dont émerge le besoin d'un modèle conceptuel, l'importance de la remise en question et de la discussion et réflexion sur le long terme avec tous les acteurs et actrices concernés pour élaborer un modèle qui, à la fois, est capable de répondre aux enjeux qui ont motivé sa création et également possible de définir, décrire et analyser les différents éléments qui composent cette situation. Ce qui m'apporte une autre réflexion. On plébiscite souvent le Canada pour ses apports et son avancée sur l'Europe francophone. Ou du moins, c'est ce qui se passe en France. Mais finalement, ce qu'ils ont fait, on est aussi capable de le faire. Il faut juste, entre guillemets, que l'on identifie bien les enjeux et les objectifs souhaités avant de démarrer un tel processus. Mais aussi que l'on définisse ce qu'est l'ergothérapie, selon notre perspective, notre société, notre contexte socioculturel. Grâce à cet article, j'ai aussi découvert l'ethnographie institutionnelle. Je ne connaissais pas du tout. Et je trouve que les éléments apportés sont très intéressants, permettant bien de rendre explicites les freins que l'on expérimente dans la pratique. Cet article est particulièrement intéressant, surtout sur l'aspect politique. Habiliter à l'occupation signifie rendre capable. Et rendre capable, ce n'est pas seulement s'assurer que les fonctions cognitives, psychiques et physiques sont fonctionnelles, c'est aussi s'assurer que l'environnement permette aux personnes de s'engager et de s'accomplir, d'accéder aux opportunités permettant de vivre une vie en bonne santé. Tencent a travaillé avec Wilcock sur la justice occupationnelle. Là, on le voit. Habiliter à l'occupation, c'est s'engager aussi pour l'environnement politique et social. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'idée. Ça fait aussi partie de la frustration qui m'a conduite à m'éloigner de la pratique clinique. Mais on est aussi à un nœud dans ce qu'est l'ergothérapie et ce qu'elle n'est pas. Ce que nous livre Tencent ici, c'est une vision très politique et sociale qui, 1. Ne correspond pas vraiment à la pratique effective de l'ergothérapie en France. Je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs. Et 2. Ne semble pas correspondre aux aspirations ou orientations portées par les instances représentatives des ergothérapeutes, du moins en France. Toutefois, il existe un collectif d'ergothérapeutes, dit émancipatrice, qui a publié un manifeste qui va dans ce sens. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Voilà, pour conclure, merci à toutes et à tous d'écouter le podcast et de faire grandir le réseau. L'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à partager vos remarques, vos réflexions, vos commentaires, que ce soit en privé ou au travers des différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à partager et à nous aider à faire grandir le collectif. Le collectif Occupe ton Ergo se veut semeur d'ergo réflexion. Alors, c'est aussi à vous de jouer. Et surtout, surtout, merci. Thank you.